merci à vous d'être là aux Imaginales pour ce café littéraire. On se retrouve donc avec trois auteurs, souvent on en a quatre, mais là sur le thème, je n'ai lu que trois auteurs qui vraiment correspondaient au choix que nous avons eu. On va donc parler des États-Unis. Est-ce que ça nous fascine ou est-ce que ça nous fait peur? Les deux, en général, probablement sera-t-elle la réponse, mais on va le vérifier avec nos écrivains. Alors déjà, pour les États-Unis, on va commencer par éviter les clichés. Au hasard, puisque c'est un roman tout nouveau que je découvre, je n'ai pas le temps de lire et je ne l'ai pas encore reçu à domicile. Merci à Xavier de me l'avoir apporté. J'ai donc quand même eu le temps de le feuilleter. Je découvre. Voilà. Je cherche le passage. Je découvre. Celui que l'on surnommait le Commodore était tout simplement l'homme le plus riche d'Amérique, autrement dit du monde. Il avait ajouté au prestige de son nom une fortune personnelle qu'il ne devait qu'à lui-même. Elle s'élevait à 500 millions de dollars. Von der Graaf s'était enrichi dans le commerce de l'acier, les transports fluviaux et ferroviaires, la pêche à la baleine, avant d'étendre son pouvoir à toutes les sphères de la finance. Il n'avait pas subi le terrible krach boursier d'octobre 1907, qui, suite à l'effondrement du New York Stock Exchange par l'effet de spéculateurs, avait provoqué une banqueroute générale à travers le pays, alors même que l'économie était prospère. Mieux, Van der Graaf avait augmenté sa fortune quand tout le monde paniquait. Tout le monde, à l'exception d'Etty Green, la femme la plus haïe d'Amérique, celle que l'on surnommait la méchante sorcière de Wall Street. Van der Graaf se serait associé avec le diable s'il y avait trouvé son compte. Il avait le temps de repérer qu'il pouvait nous rapporter maintenant ou plus tard. La rumeur prétendait que la plupart des politiciens à Washington étaient à sa botte et que le président lui-même nous ait pas souché sans l'accord préalable du magnat. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de cliché sur les États-Unis dans ce passage, Xavier Bobéjean? Et s'il y en a, c'est volontaire, bien sûr.
Alors, déjà, je remercie les Imaginales en avant-première de présenter mon roman. Bon, il n'y avait pas d'autre lieu, j'y tenais en tout cas pour mon retour à l'imaginaire, justement. Donc, merci à ce festival. Alors, oui, bien sûr qu'il s'agit de clichés, mais l'Amérique s'est formée une mythologie qui est très contemporaine. Et ce qui est peut-être unique dans l'histoire de l'humanité, c'est que les mythes existaient avec leur modèle. Billy the Kid existait avec William Cody et Sohn, pourrait-on dire. Donc, moi, ce qui m'intéressait, pendant une grande partie de ma vie d'auteur, c'est de m'interroger sur l'imaginaire américain qui a façonné l'imaginaire mondial, et de m'y intéresser en tant qu'auteur européen. Et donc, dans une trilogie comme l'Unibusière, par exemple, qui raconte le début des parcs d'attractions qui ont inspiré aussi bien les parcs d'attractions à la Disney que les camps d'extermination, comme l'a montré Adorno, ou American Gothic, ou celui-ci, c'est de savoir en quoi nous sommes façonnés par la mythologie et les clichés de l'Amérique. Mais ces clichés sont parfois sublimes dans le bien comme dans le mal. Par exemple, il faut savoir que pour le dessin animé Bambi, les studios Disney ont dépecé un faon pour étudier son anatomie et l'ont après jeté dans une belle ordure parce qu'il n'avait pas dépecé non plus 5 faons. Jusqu'au bout. Autre exemple, Betty Boop, en 1937, fait la réclame dans un dessin animé, fait la publicité pour la chasse électrique. Tout le monde trouve ça normal. Et c'est cette espèce de naïveté associée à l'ultra-violence, et qui n'hésite pas effectivement à se tourner en cliché, qui m'a intéressé dans une grande partie de ma vie d'auteur. Voilà.
Sur ce petit passage, on en dit beaucoup, puisque évidemment, il y a bien eu un krach boursier aux États-Unis, mais c'est pas en octobre 1907 dans la réalité, mais 1929.
Non, il y a rien. Non, il y a rien vraiment en 1907.
Un vrai
krach. Oui, un très moderne, parce que c'est une effet de jeune de boursicoteur. L'économie était saine. Et la méchante sorcière de Wall Street a pris en otage la ville de New York en lui prêtant l'argent pour rembourser ses prêts. Oui. Et le Van der Graaf dont il est question, c'est bien sûr Van der Graaf, qui aurait pu, lui, par contre, freiner suite 29.
gens de mélanger du réel et de la fiction, ou c'est pas connaître le réel de la fiction, et la fiction du réel, finalement, c'est comme ça que vous travaillez, votre fiction américaine.
Je veux que gens. Ce soit comme ça assez souvent. Vous m'avez mis au jour.
James Moreau. Où nous rencontrons le révérend Malcolm Chadwick, homme à la silhouette souple et à l'esprit agile, devant lequel les athées tremblent et les sceptiques deviennent dyspeptiques. On va faire peur ici à pas mal de gens. Dans les semaines qui suivirent sa rencontre accidentelle avec la théorie de la sélection naturelle, Chloé s'occupa de ses devoirs à Dunhouse avec une diligence particulière. Nourrissant, soignant et nettoyant scrupuleusement la ménagerie de Mr. Darwin, mais elle travaillait encore plus dur pendant ses journées de congé. Chaque mardi après-midi, elle se rendait au village, entrait au Queen's Head Inn et fouillait les exemplaires abandonnés du Evening Standard qui traînait pour essayer de connaître les derniers exploits de la Percy Bysshe chez les Society. Selon Jasper Popplewell, le journaliste qui écrivait régulièrement sur le grand concours de Dieu, le Tout-Puissant n'a encore été ni vaincu ni validé à Alastair Hall. Les 10 000 livres attendaient toujours le gagnant. C'est quoi cette histoire de grand concours de Dieu et de grand gagnant qui attend 10 000 livres? C'est vrai ou c'est une fiction de l'Arche de Darwin, James Moreau?
Based on the competition that resulted in the hammer from the clock, the idea of Parliament putting up a huge amount of cash in the form of a prize that somebody could win for being very ingenious. Of course, in the case of the Harrison prize, it was determining the position of a ship at sea. Longitude. To some degree, though, I've heard of something.
Ce grand concours qui consiste à prouver l'existence ou l'inexistence de Dieu, alors ça, oui, c'est de mon fait, c'est mon invention, mais en réalité, c'est basé sur un concours qui a réellement existé, qui a été organisé par le Parlement britannique, qui a donc proposé une certaine somme d'argent qui constituerait un prix, et donc c'était à celui qui serait le plus ingénieux qui le gagnerait. Et donc, c'est le prix Harrison qui a été remporté par quelqu'un qui a réussi à déterminer la longitude des navires en mer. Et donc, voilà, c'est là-dessus que basé mon concours.
So my novel begins with an allusion to recapitulation of the longitude contest. It ends with a reenactment of the Scopes trial, a famous case in Tennessee, the state of Tennessee, circa 1920. Is that correct, Kathy? A school teacher was put on trial for breaking the law, a law that was on the books in Tennessee. You were not allowed to teach any theory of human origins that did not come from the Bible. You could not teach that humans had descended from a lower form of animal.
Donc mon livre
commence avec une allusion à ce concours de la longitude, donc, et il se termine avec un procès qui est un procès assez célèbre au Tennessee et qui impliquait donc un professeur d'école qui a été jugé pour avoir transgressé une loi qui était une loi promulguée selon laquelle on ne pouvait pas enseigner une théorie de l'origine humaine, une théorie de l'origine humaine qui ne venait pas de la Bible. C'était en 1925.
Le procès du singe.
Yes, the monkey trial, process du singe, famously became a play, Inherit the Wind, and also a movie. John Scopes was famously, as it were, prosecuted by William Jennings Bryan, an American politician who was the personification of populism. William Jennings Bryan really cared about the struggling working poor in the United States, and he saw Darwinism as ratifying, legitimizing the economic status quo. William Jennings Bryan is often presented as the villain of the Scopes trial, for Satan's son. But he was a genuine populist. And this leads us to Donald Trump, the full populist.
Ce procès, il a d'ailleurs été mis en scène hein, sous plusieurs formes. Et John Scopes a été poursuivi, donc a été accusé par Brian. C'est un cas assez populaire. Et il a été présenté comme un véritable personnage, un populiste en fait, qui se souciait donc des classes travailleuses, et pour lui la théorie de Darwin légitimisait le statu quo économique, et il a été longtemps dépeint comme le méchant de l'histoire, mais c'était un véritable populiste, et tout ça, ça nous mène à Donald Trump, qui lui est un idiot populiste.
On va maintenant entrer dans un autre roman, Charles Darwin, celui de notre ami nommé Jean. On va rentrer dans l'univers de Georges Canguin, Forteresse. Et là, vous allez découvrir que les deux précédents romans sont des livres optimistes. C'était en 2020 qu'il avait franchi l'Atlantique, ouvrant son plus grand site de recherche et production à Minneapolis. Le siège principal de la compagnie restait à Birmingham avec la première usine. Durant les trois années qui avaient suivi, le site américain s'était largement développé, tandis que l'Europe subissait le plus fort de la correction. En mars 2023, Bruxelles, au nom des droits de l'homme, adoptait une directive prévoyant que tout exécutif, national ou local, devait accueillir un tiers au moins de musulmans. Le même jour, la République islamique d'Anatolie donnait à tous ces non-musulmans un délai de 5 jours pour quitter son territoire sous peine de mort. Je dis un auteur islamophobe. Je prends un autre passage. Le 26 avril 2039, l'avion de Nippon World Wings s'était posé à 11h40 et le transfert sur Manhattan avait été rapide. Mais Yagawa était long en avance et il avait demandé au taxi de le déposer à Columbus Circle, puis il avait marché sur Central Park South et tourné dans Americas. Là, il s'était appuyé contre le muret pendant lequel la marche menant du trottoir à l'esplanade, qui s'étendait devant un immeuble du bureau, et il avait observé le flot des indigènes. La frontière de l'État indépendant de New York avait contenu le totalitarisme chrétien de l'UABS. Elle n'avait pas endigué l'évolution morphologique américaine, mais au moins le tsunami graisseux il a dénué dans cette ville dont les habitants avaient été longtemps cités pour leur allure pressée, leur élan tendu par l'ambition. Les Yupala, ici, semblaient rouler un peu plus vite qu'à Houston ou Philadelphie. Les Power Cruisers emmenaient un peu moins, d'un pas un peu moins lent les élans de corps de leurs propriétaires. En outre, la proportion de vêtements ne devait pas dépasser 75%. Quant aux lois SAM adoptées dans l'Union, si elles n'avaient aucune validité dans l'État, elles étaient largement appliquées sur une base volontaire. Ainsi, le taxi qui avait amené Yagawa de l'aéroport avait été une Maradjane exécutive, surtout pas achetée du bleu, mais équipée de l'extracteur latéral obligatoire de l'autre côté de la frontière. On se dit, ce type déteste les chrétiens. Et vous avez raté la guerre à terre juive dans un autre passage du roman. Et finalement, Georges Panchard, on aurait tort de vous prendre uniquement, en tout cas pour un islamophobe, on aurait tort de vous prendre pour un antisémite, anti-judaïste, on aurait tort de vous prendre pour un anti-chrétien. Finalement, c'est les croyants que vous n'aimez pas.
Ah, c'est intéressant parce qu'on a abordé cette question. Je pense qu'il y a des gens qui ont entendu le débat préliminaire qui a eu lieu il y a 2 heures sur l'évolution de l'Europe. On arrive avec les mêmes questions sur les États-Unis. Ce qui m'horrifie, c'est la prééminence du religieux sur le civil. Après, vous mettez toutes les couleurs que vous voulez. Mais si on parle de l'Europe, elle sait quand même, intégralement, hein, mais elle sait, dans une certaine mesure, libérer la prééminence du religieux. Et par l'immigration musulmane, elle est à nouveau menacée par cette prééminence, parce qu'on a des fondamentalistes qui débarquent et qui, avec une volonté de conquête et d'hégémonie. Et ça, c'est un fait objectif. Moi, ça m'est égal que les gens aillent à l'église ou à la mosquée 3 fois par jour ou fassent des pèlerinages. Mais leur religion, leur foi, ne les légitime pas à me dire ce que j'ai le droit de faire ou de ne pas faire. Maintenant, pour en revenir plus spécifiquement aux États-Unis, ce que j'ai décrit dans ce livre, c'est un système politique qui s'appelle l'Union des États bibliques américains, dans lequel en 2028, il y a eu une révolution biblique qui a balayé le système classique de la démocratie américaine, présidence, système bicaméral, pour instituer une théocratie, un gouvernement religieux qui est dirigé par un tribun qui est également un révérend, un prêtre qui s'appelle Beveridge. Mais l'autre chose que tu mentionnes, c'est que oui, j'ai joué beaucoup sur. Tu as parlé du standard SAM. Alors évidemment, j'ai employé l'acronyme SAM parce que ça vole de l'Amérique. Mais c'est Standard of American Morphology. C'est-à-dire, c'est une constatation que la morphologie américaine, ben, c'est l'obésité, et que donc tout doit être fait en fonction de ça. Quand on construit une voiture, il faut un extracteur latéral pour que les gens puissent entrer et sortir. Les tabourets de bar, il faut en mettre de large. Les escaliers, ils ont de largeur, etc. Et peu après la sortie de ce livre, j'ai lu un article sur un gars aux États-Unis qui fabrique des cercueils et qui expliquait que cette petite entreprise artisanale, il était très fier parce que les cercueils qu'il fabriquait étaient garantis pour 400 kilos. Parce que ça fait mauvaise impression quand on balade le corps du défunt et que ça craque et qu'il tombe au milieu de l'église. Et très peu de temps après aussi, j'ai lu un article qui disait que pour beaucoup de familles américaines, il n'était pas très riche. Ça coûtait très cher de ne pas incinérer un corps, parce qu'il fallait prendre 2 concessions à la place de 2 cercueils normaux pour les tombes. Alors évidemment, j'ai joué là-dessus, c'est l'aspect le plus visuel, et ça aurait fait un joli film. Et bon, voilà, après, je pense qu'on va revenir sur des tas de choses à propos de l'évolution des États-Unis, puisque c'est le thème, puisque c'est le thème ici, mais je ne peux pas monopoliser.
Vous aviez nommé Jean, est-ce que la question religieuse, justement, en Europe, là on va plus parler des États-Unis, est-ce que la question religieuse aux États-Unis est une problématique que vous abordez dans vos romans?
Oui, je l'ai abordé notamment dans l'American Gothic. Notamment, ça raconte un peu ce qui avait été dit du procès du singe, le procès Scope 125. Et je parle notamment, j'en parle aussi dans le prochain, puisque Houdini, on le sait peu, il avait très honte, lui et son épouse Bess, quand ils étaient jeunes. Bon, ils avaient faim, c'était des sortes de référents itinérants présentés. Comme référent, alors c'est sa médecine qui était gommée, hein, mais qui est authentique, et qui, un peu comme dans ce vieux film avec Burt Lancaster, provoquait la transe sous des tentes blanches, etc. Mais bien sûr, c'était un mystificateur, c'était Bess qui était soi-disant en transe, etc. les cimetières avant de se produire, avec les tons fraîches, etc. Enfin, c'était la magie du music hall au service de l'arnaque spirit et spirituelle même. Et Houdini en avait honte. Il a même après travaillé pour Harvard pour défaire justement ses révérends charlatans. Enfin, c'est, d'ailleurs, c'est le titre du film de Laurent Bassin, c'est merveilleux le chat. Voilà. Et Bess, par exemple, a toujours été persuadée que si elle n'avait pas eu d'enfance, c'est parce qu'elle avait menti à des malheureux. Et moi, ce qui m'intéressait, je fais une grosse boucle, mais je reste dans la question, c'est que la religion aux États-Unis, enfin, en tout cas, une certaine religion, se départ pas de la même mise en scène qu'il peut y avoir dans des shows et des spectacles. Et on pense à Cécile Bénil, etc. Et je pense qu'elle est très imagée, la religion américaine. Elle a un pouvoir de l'esprit, mais elle a tout autant un pouvoir par l'image, une forte importance de l'image. Donc, ça m'intéressait.
Extrait toujours de votre tout nouveau roman, La société des faux visages, où la réaction de l'assistance est pour le moins mitigée. L'ingénieur Marsh avait mis à leur disposition une Ford et son chauffeur. Le trafic était ralenti à hauteur de la 49e parce qu'un cheval de fiacre en tombant dans un trou s'était brisé une jambe. Les travaux de voirie se répandaient dans toute la ville, pareil à une gangrène. Ce genre d'incident était monnaie courante, sacrifice rendu sur le thème du progrès. Il fallait abattre l'animal, mais les terrassiers ne voulaient pas l'achever à bout de pioche. Un passant prêta son pistolet à un policier qui se chargea de la corvée. La conversation dégénéra ensuite entre le conducteur de fiacre et les travailleurs, au point que l'agent les menaça de finir tous au 300 Mulberry Street, le siège de la police situé en plein cœur d'un quartier tripot de bordel, là où les forces de l'ordre n'avaient plus à faire, mais se gardaient bien d'intervenir. Tandis qu'il patientait, Freud raconta à Harry qu'un grand philosophe allemand, devenu complètement fou au soir de sa vie, avait été vu murmurant à l'oreille d'un cheval qu'il était l'antéchrist. C'était l'un de vos patients ? Nietzsche, non ? Ça me rassure. Est-ce qu'il n'y a pas aussi de l'humour dans votre vision d'une Amérique différente, un peu chronique, un peu décalée ?
J'espère, mais ce qui est fascinant, c'est que Freud et Jung se sont rendus à New York en 1909, en septembre, et Houdini habitait New York quand je les ai fait se rencontrer, mais moi, ce qui m'a fasciné, c'est que Freud et Jung sont allés à Coney Island. C'était le lieu d'un des précédents romans lilliputiens. Et Freud a eu un malaise physique. Il était malade, et notamment en voyant pour la première fois un film. Il a vu des images qui lui étaient imposées. Il a pensé qu'il se retrouvait dans une sorte d'inconscient collectif. Et Freud s'est évanoui. Et Jung a adoré. Et par contre, dans l'effet comique, quand Freud et Jung sont arrivés en Amérique, les journaux titraient « L'Amérique reçoit l'enfer ».
Petit extrait encore de Georges Blanchard, encore la région, mais on va passer à d'autres sujets parce que la vraie richesse de Forteresse, ça n'est pas ça, c'est un décor. Ce sont des éléments, mais ce n'est pas le cœur de ce roman, mais je tenais quand même, un mec comme l'Amérique, à aborder cette question. Y compris parce que la voix de Georges, une voix qui parfois dérange, bouscule, et qui, sur les questions religieuses, est un vrai radical. C'est-à-dire que peut-être, il ne va pas accepter l'idée, mais moi je le vois peut-être comme un fondamentaliste athée, en tout cas un laïc féroce, mais peut-être que face au fondamentalisme de toute religion, faut-il être féroce, en tout cas une certaine actualité dans différents pays le montre. Après tout, c'est vrai que ces questions sont des questions sérieuses. Il est normal que les auteurs de science-fiction les abordent, puisqu'ils travaillent sur le futur, non pas pour prévoir l'avenir, mais pour s'interroger sur l'avenir de nos sociétés et celles que nous voulons construire en commun. Petit extrait. Née à Chicago en 2010, elle avait quitté l'Union des États bibliques américains en 2029. Une petite vingtaine de millions de ses concitoyens en avaient fait autant après la révolution biblique, sans compter les résidents de la Californie et de New York, les deux États qui avaient refusé de se joindre à l'Union. En 2030, un décret du Sénat avait privé tous les exilés de leur citoyenneté. La plupart avaient rapidement acquis celle de leur pays d'accueil, dans son cas, l'Angleterre. Ouais, l'exil de chez les méchants bis bleus, c'était une carte de visite idéale, et surtout, cela compliquait sérieusement les recherches éventuelles sur le passé de la personne concernée. Elle avait quitté l'Amérique après une année d'université à Chicago, puis obtenu un master en sciences économiques à Londres, un diplôme postdoctoral à Cambridge, en jouant les escortes occasionnelles d'hommes fortunés pour payer ses cours, son appartement et son cabriolet, l'utilisation des compétences des gens. Là, encore une fois, on voit que vos cibles sont les protestants fanatiques, les sectes protestantes. Et dans le monde que vous imaginez, vous pensez que les questions religieuses ont pris une telle importance qu'elles ont modifié en fait la géopolitique de différents pays, de l'Europe, mais aussi des États-Unis, puisque si mon souvenir est bon, parce que j'ai quand même lu Forteresse il y a bien une quinzaine d'années, en tout cas quand il est sorti, si ma mémoire est bonne, c'est en trois parties qu'éclatent les États-Unis d'Amérique. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire plus? Et aussi, pour être plus précis, cet éclatement des États-Unis d'Amérique, cette pression religieuse fondamentaliste, amène un certain nombre de cerveaux et d'intelligence à se replier sur l'Europe, et donc à renverser en quelque sorte la notion de pays dominant, c'est-à-dire que c'est l'Europe où naissent des contre-pouvoirs à ce pouvoir fondamentaliste religieux, et ces contre-pouvoirs, Georges Bossard, si ma mémoire est bonne, ce sont des grandes entreprises. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu?
La dérive de la perte de pouvoir affectif des collectivités et des gouvernements au profit de grandes entreprises, dans l'histoire, elle est optime. Elle est indépendante par rapport à cette question-là. Sur l'évolution de la société américaine, on a évidemment parlé de Trump. Il y a déjà maintenant des forces politiques, et James Monroe pourra probablement le confirmer, notamment en Californie, qui parle de sécession par rapport au gouvernement central avec l'équipe de Trump. Et les deux premiers candidats, c'est New York et la Californie, pour des raisons historiques et de sensibilité politique. Ce qui est très frappant, ce qui est très drôle dans l'histoire, c'est que Trump, lui, qui est très soutenu par les milieux religieux américains, c'est pas du tout quelqu'un de religieux. Pas du tout. Sa seule religion, c'est sa réussite, son fric, et surtout son ego, plus que sa fortune, surtout son ego. Mais évidemment, son environnement, le vice-président, est très marqué sur le plan religieux, plusieurs personnes dans l'appareil politique des républicains. Il y avait un autre candidat à l'investiture républicaine qui était beaucoup plus religieux, qui lui était vraiment un intégriste religieux, c'est un candidat qui s'appelle Cruz, ce qui est un très très beau nom puisque ça veut dire la croix en espagnol. Mais je crois que c'est vrai que je ne prétends pas être un spécialiste de société américaine, mais à travers la société américaine, et surtout, il y a une partie du sud des États-Unis, on appelle ça « the Bible Belt », où la parole religieuse a pris une importance, et a gardé une importance fondamentale. Et alors, ça a un autre effet, c'est que la paroisse, ça devient le lieu des relations sociales. C'est-à-dire que non seulement les gens vont à l'église, mais on fait des pique-niques le dimanche, les vacances des enfants sont organisées par les paroisses. Et il y a eu un sondage dernièrement qui a montré que pour l'Américain moyen, ou l'Américaine qui vit seul, souhaitait rencontrer quelqu'un pour vivre, pour se marier, l'église, la paroisse, était devenue la première probabilité de rencontre. Donc ça a pénétré la société civile. Et pour finir, j'ajouterai deux choses. Il y a un juge fédéral américain qui est décédé il y a quelques années, dont les conservateurs parlent encore avec des larmes, qui s'appelait Antonin Scalia, qui était certainement un brillant juriste, mais qui brandissait la Bible en disant « ça, c'est mon livre de loi ». Juge suprême, à vie américain, c'est quelqu'un qui est probablement plus puissant que le président des États-Unis dans l'impact qu'il a sur la société. Et je citerai aussi George Bush Jr., qui, au moment de la deuxième guerre d'Irak, a rappelé que, selon lui, les États-Unis avaient une mission divine. Voilà, je reste pour le moment.
Et bien, justement, autre version de la mission divine, avec James Monroe et l'argent de la Alastair Hall, Oxford, samedi soir dernier, les juges du grand concours de Dieu ont entendu l'argument des erreurs bibliques. historiennoque à Delbonne, un philologue amateur, leur a exposé une série de tableaux dans lesquels il avait transcrit des dizaines de prétendues erreurs dans les Écritures. Dans le chapitre inaugural de la Genèse, Dieu commence par créer toutes sortes d'animaux, l'homme servant de point culminant au processus, tandis qu'au chapitre 2, le Tout-Puissant, ayant apparemment repris tout cela depuis le début, met d'abord Adam et Ève avant les mises en scène, avant les bêtes. Dans le Lévitique, les chauves-souris sont considérés comme des oiseaux, les lapins comme des ruminants, et les insectes ont quatre pattes. Dans Matthieu, Judas jette ses pièces d'argent avant de se pendre, et les prêtres en chef utilisent l'argent pour acheter un champ, mais dans les Actes, c'est Judas qui achète le champ, lieu où il meurt lorsque son abdomen explose. Avec passion et lucidité, les juges anglicans ont expliqué pourquoi de telles anomalies ne devaient pas décourager les croyants. Le révérend Simmons a avancé que, au temps de Moïse, les chauves-souris étaient effectivement des oiseaux. Les lapins mangeaient de l'herbe et les insectes avaient quatre pattes. Le professeur Owen a proposé une version de la mort de Judas, dans laquelle les prêtres détachent son cadavre avec l'intention de l'enterrer, projet qu'ils abandonnent lorsque les restes du méchant explorent dans le terrain qu'ils avaient acheté en son nom. Le révérend Chadwick s'est contenté de dire « N'écartons pas les forêts glorieuses de Dieu pour quelques feuilles aberrantes sur une branche solitaire. » Vous vous moquez un peu quand même de la cohérence des textes religieux, James Moreau.
So much looking to find freedom of religion as to find freedom of persecution, they wanted to be able to exercise their bigotry against other groups that they found here. They didn't have that freedom in England. They didn't have freedom of persecution. But they could find it here, and they could also evangelize the Native Americans. It was genuinely disastrous. So there has been a theocratic impulse from the very beginning. And it's played out in every generation. The Scopes trial, Dominus et Tazunin were very good at inventing religions. I think our impulse toward the fantastic has not gone into creating a great indigenous literature of the fantastic. It's gone into creating Mormonism, Christian Science, and Scientology.
Qui est contenu dans l'histoire américaine. Les puritains, lorsqu'ils ont accosté les rives américaines, ne cherchaient pas tant la liberté de religion que la liberté de persécution en réalité. Ce qu'ils voulaient, c'était exercer leur bigoterie sur les autres, et ça, ils ne pouvaient pas le faire en Angleterre. Et ils ont cherché à évangéliser les Indiens. Ils ont cherché à évangéliser les Indiens, et d'échecs, bien sûr, à ce niveau-là. Et il y a une impulsion théologique à l'origine de l'histoire américaine qui ensuite s'est traduite, par exemple, avec le procès de Scope. Et je pense qu'aux États-Unis, on est particulièrement doué à inventer des religions. On a commencé à écrire des histoires fantastiques qui, au final, sont devenus les sciences chrétiennes, la scientologie et les mormons.
The irony is that the United States was founded as a secular republic. The founding fathers, as we call them, were fed up with European wars of religion, were fed up with the mixing of church and state. It's sometimes said that the most important word in the American Constitution is the word that's not there, the word God.
Donc, l'ironie, en fait, c'est que les États-Unis ont été fondés sur une religion séculaire. Les pères fondateurs, en fait, étaient à l'origine, ils n'en pouvaient plus des guerres européennes qui étaient des guerres de religion, Il n'en pouvait plus non plus de cet agrégat de l'État et de l'Église. Et on dit souvent qu'il y a un mot qui n'est pas dit dans la Constitution et qui pourtant est très présent, et c'est Dieu.
Nevertheless, scoundrels have exploited this theocratic impulse from the beginning, all the way up through and including, you mentioned, Mr. Mike Pence, who is our vice president, who I would call him not a white supremacist, but he's a Christian supremacist. For him, all conversation begins and ends with the Bible. It's a recipe for disaster. Shudder to imagine what lies ahead.
Malgré tout, il y a bien eu une impulsion théocratique depuis le début aux États-Unis, et tout ça nous mène à Mike Pence, qui aujourd'hui est le vice-président des États-Unis, qui n'est pas tant un suprémaciste blanc qu'un suprémaciste chrétien. Pour lui, chaque conversation commence et se termine par la Bible. Et pour moi, ça, c'est un ticket pour le désastre. Et je tremble à l'idée de ce qui nous attend pour la suite.
Nobody said it better than Oscar Wilde. Oscar Wilde, America is the only country that went from barbarism to decadence without civilization in between.
Et au final, il n'y a personne qui l'a mieux dit que Oscar Wilde. L'Amérique, c'est le seul pays qui est allé du barbarisme à la décadence sans la civilisation entre les deux.
Constater l'humour de notre ami. Xavier Mauméjean voulait réagir à ce qu'a dit James Monroe. Xavier. Ça ne marche pas. C'est bon.
Tout le monde l'entend ou pas?
Non.
Oui, je voulais juste simplement rajouter dans la mouvance de mes deux collègues et rebondir particulièrement à ce qu'a dit James. Il est fascinant de savoir que Elisabeth Goose, qui a écrit les premiers contes de ma mère loi, Tales of Mother Goose, a été mariée à son mari par Cotton Mather, que James connaît bien, qui était le chasseur de sorcières, le plus terrible chasseur de sorcières dans la Boston puritaine. Et donc le mélange d'imaginaire de Mother Goose et de la plus terrible dictature religieuse était ami. C'est ça qui est fascinant. Et je voudrais, si je le retrouve, une phrase de Freud qui est magnifique à la suite d'Oscar Wilde. L'Amérique est une erreur, c'est de Sigmund Freud, l'Amérique est une erreur gigantesque, une civilisation bâclée, hypocrite.
Eh bien voilà, je crois que tout le monde est rhabillé pour l'hiver. Heureusement que le meilleur de l'Amérique est représenté à ses imaginales par des écrivains, justement, comme notre ami James Moreau. Petite citation encore de Forteresse de Georges Panchard pour mieux situer le fond de son récit, et après je vous en dirai tout petit mot. 14 septembre 2035, les grandes Nice. Les forteresses, ils en avaient tous. En un temps où plus que jamais la puissance se mesurait en termes d'ubiquité, de capacité de se déployer sur l'ensemble du monde, tous les grands groupes avaient apparemment centralisé leur processus décisionnel, regroupé leurs dirigeants et les plus aiguisés de leurs analystes dans de formidables complexes dont la seule existence passive et statique faisait des cibles idéales. La centralisation était hiérarchique autant que géographique. La pyramide du pouvoir chez Avilan Corporation, comme dans maintes entités d'une importance majeure, avait pris des allures d'obélisque, tandis que l'emprise des méga-corporations sur les affaires du monde ne cessait de s'accroître. Van Ring concentrait entre ses mains l'essentiel des pouvoirs de l'organisation. Évidemment, les groupes ne négligeant rien en termes de technologie. technologie quand il s'agissait de protéger leur sanctuaire. Super béton, céramique, alliage intelligent, muraille auto-réparatrice, faisceau laser antimissile, analyseur multispectre, nuage de molécules offensives programmées. On avait fait des progrès depuis les Louvres et les machines Louvres. Et dans le genre, Castellane était peut-être ce qu'il y avait de mieux. Sans compter qu'avec le Skyring, Havilland avait son propre système satellitaire de surveillance. De plus, la compagnie disposait d'une flotte d'une soixantaine d'hélicoptères de combat Phalanx, construits par la filiale Votoshovi Systems et répartis sur ses différents sites. Le meilleur appareil du genre et les versions que Havilland consentait à vendre à quelques armées nationales étaient moins avancées que celles qu'elle réservait à sa défense. Le rôle des forteresses était symbolique autant que fonctionnel, une démonstration de puissance, un message au monde, un défi au soleil, un peu comme les tours érigées par les grandes familles de San Gimignano des siècles plus tôt. Voilà, le décor est planté, ces grandes corporations finissent par se regrouper en dirigeants dans des immenses structures, et évidemment, à la fois ce sont des symboles de puissance, et ce sont aussi des lieux potentiellement menacés. Je vous lis un petit extrait de la carte de course pour qu'on comprenne bien l'enjeu du roman. Adrian Kleinborn dirige la sécurité de Havilland Corporation, une des plus importantes compagnies de la planète. En 2039, Kleinborn apprend que l'Union des États bibliques américains a décidé d'assassiner Brian Mannering, le puissant président de Havilland, dans sa forteresse andalouse de Castellane, un des sanctuaires les mieux protégés du monde. Il ignore toutes les modalités de l'opération, mais il connaît son nom de code, Ghost, Phantom. Lorsqu'il apprend qu'un système offensif indétectable vient d'être dérobé dans un laboratoire suédois et que ce système a été baptisé Fantôme par son concepteur, il fait le rapprochement. Un thriller haletant dans un avenir dur, noir et brillant. Pour résumer, je dirais, avant de poser ma question à Georges Conchard, et on conclura cette table avec sa réponse, ce roman est certainement l'un des thrillers de science-fiction les plus brillants que j'ai lu depuis une vingtaine d'années. Simplicité, un livre marquant et un des très rares français avoir été publié depuis une vingtaine d'années dans la collection Ailleurs et Demain, qui fut une très grande collection et qui n'a publié, par Georges et une autre exception, que des romans anglo-saxons. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, qui êtes un nouvelliste rare, tellement rare qu'on n'a pas pu obtenir une nouvelle pour l'anthologie Destination parce que les délais étaient trop courts et que vous écrivez patiemment, lentement, mais vos nouvelles sont toutes des nouvelles marquantes. Écrire un thriller d'anticipation qui d'emblée devient un modèle, face y compris à nos amis américains, à tout ce qui se fait de mieux en Europe. On a bien vu que la religion était une question importante, mais pourquoi une sorte de mécanique qui met en place à la fois les grandes corporations et qui met en place une sorte d'intrigue de roman noir et de roman policier, Georges Conchard?
Bon, il y a plusieurs choses là. Le défi fondamental, c'est dire, voilà, une des personnes les mieux protégées au monde. Comment est-ce qu'on peut atteindre cette personne? Et mais ce qu'il faut dire, c'est qu'au départ, moi, je pensais situer ça dans un contexte plutôt médiéval. Et la forteresse aurait été de type médiéval. L'armement aurait été un peu... pour ceux qui ont lu le livre de Ian Banks qui s'appelle Inversions, Inversion, il y a quelqu'un qui a exactement le même rôle, il doit protéger l'empereur, il s'appelle The War, qui travaille plutôt avec des vagues, des poisons, des arbalètes. Et seulement entre-temps, que ça va pas vite chez moi, et entre le moment où j'ai eu cette idée de base et puis l'idée où j'ai écrit le roman, j'avais lu quoi? J'avais lu Gibson, j'avais lu Neil Stephenson. Je m'étais complètement imbibé de l'univers très high-tech, très digital, très comme ça. Et je ne pouvais plus partir dans cette mouvance et cette esthétique qui était plutôt médiévale ou à la limite steampunk. Et mais le défi central, c'était de dire il y a quelqu'un, je dois protéger quelqu'un, j'ai tous les moyens de protection et de défense possible à ma disposition. J'ai des murs infranchissables, j'ai toutes les fréquences d'analyse possible. Mais quelque chose peut arriver. Et en l'occurrence, il parle à quelqu'un et il dit, mais tout peut être une arme. Tout peut être une arme. Et il y a une chose qui peut être une arme, notamment c'est la mémoire. Et je relève que le roman au départ aurait dû s'appeler Mémoire et forteresse. Et quand Gérard Klein a reçu le manuscrit, il m'a demandé de changer une chose, c'était le titre. Il voulait que je s'appelle simplement forteresse, parce que le marketing, littéraire, etc., c'était mieux d'avance. Et tout le monde a dit c'est vrai, peut-être. Mais c'était ça le défi. Comment est-ce que je vais atteindre quelqu'un qui est en principe inaccessible?
Eh bien, voilà, l'Amérique, c'est un objet à la fois proche et inaccessible aussi, mais que ces romanciers, qu'ils soient américains ou francophones, sont capables de nous aider à décrypter. En tout cas, trois auteurs vraiment précieux pour l'imaginaire, trois auteurs qui ont des beaux livres que je vous recommande. Georges Panchard, elle est vraiment extrêmement puissant, un vrai thriller du futur.
Et je remercie Stéphanie qui est une attachée de presse, alors extraordinaire.
Je parle des livres avec passion quand je les trouve vraiment bons, sinon je suis juste aimable. Forteresse, un grand livre donc de Georges Panchard, l'un de nos érudits suisses, que vous pourrez trouver soit dans la version Allure et Demain, soit dans la version du livre de poche, et puis le recueil de nouvelles aussi.
C'est pas un recueil de nouvelles. J'avais
roman pluriel
à 7 titres. Oui, parce que j'avais marqué chapitre 1, tel et tel, chapitre 2, tel et tel, et un correcteur qui a enlevé ça. Et après, tout le monde a dit, c'est un recueil de nouvelles. Bon. Mais c'est un petit peu un recueil de nouvelles romans au sens du livre de Eschbach sur les millions de cheveux.
C'est un roman correct, parce que ça, c'est vrai. Donc, Forteresse, vraiment, et vous verrez, il y a aussi un autre roman, un autre livre, qui prolonge cet univers de façon tout à fait passionnante. Notre ami Xavier Mauméjean, American Gothique, vous trouverez chez 18, et aussi Alma, et Alma Éditeur, il vient juste de sortir, il n'a même pas encore eu le temps de dire plus que les premières pages, La Société des Faux Visages de Xavier Mauméjean. Et enfin, L'Arche de Darwin de James Morrow, mais tous ces romans nous parlent de l'Amérique, bien sûr. Merci à tous.